pour que ça s'arrête.
Quand ça veut pas, je vous l'ai dit, ça veut pas. Alors, il y a différentes techniques rhétoriques derrière ces réponses, mais mention spéciale pour la périphrase. La périphrase consiste à utiliser plusieurs mots pour décrire ce qu'un seul pourrait représenter. C'est la célèbre frappe chirurgicale pour décrire un bombardement. L'objectif, atténuer ou diluer la force d'un propos. Oui, mais, vous l'imaginez, il y a un mais. L'atténuation peut avoir un rôle confiscatoire lorsqu'elle modifie certaines réalités.
Merci beaucoup Mathieu. Parlons peu, parlons bien.
Parlons peu, parlons bien. Avec UBS Helvetica, le réseau de bénévoles d'UBS, ubs-helvetica.ch.
Damien Cottier, on va terminer cette première heure de matinale spéciale avec vous. Juste brièvement, une réaction sur ces mots voilà, qui gênent aux entournures certains. On n'arrive pas à les dire, certains décident de les dire, d'autres pas. Qu'est-ce que ça suscite comme réaction chez vous ?
Bon, c'est un débat important, mais c'est vrai qu'il y a une définition qui est très précise dans la Convention, et c'est compliqué, sur la base des informations qu'on a, de vraiment trancher. Ce qui est important de voir, c'est qu'il y a des choses dramatiques qui se passent à Gaza, qu'il y a des violations graves du droit international et du droit humanitaire, et il n'y a même pas besoin de se référer à la Convention sur le génocide. Les conventions de Genève obligent déjà non seulement Israël et d'ailleurs aussi le Hamas de respecter leurs obligations, mais obligent tous les autres États de faire respecter cette obligation. Et c'est aussi une obligation morale pour la Suisse. Après, c'est de trouver la bonne manière pour le faire, non seulement en termes des déclarations publiques, on en a beaucoup parlé, mais aussi au niveau de l'action. Je note que le Conseil fédéral a quand même décidé mercredi, pas seulement de s'exprimer sur la crise, mais aussi de mettre 20 millions supplémentaires, ce qui porte à plus de 130 millions l'aide de la Suisse dans la région. Et je pense que chacune et chacun d'entre nous peut d'ailleurs aussi contribuer en soutenant les organisations humanitaires. C'est l'action qui compte autant que la discussion. Peut-être encore juste un mot sur les sanctions. On en a posé la question tout à l'heure.
Oui.
La Suisse, c'est sa législation, ne peut prendre des sanctions que les sanctions des Nations Unies ou d'un grand partenaire économique, c'est-à-dire l'Union Européenne. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc la Suisse ne pourrait pas, c'est sa loi qui le dit, elle-même, le Conseil fédéral n'aurait pas la possibilité de déclarer des sanctions. Si l'Union européenne en prend, et c'est possible que ça vienne, alors nous devrons évidemment faire ce débat, parce que la question c'est de trouver les bons moyens de pression sur Israël pour qu'elle respecte ses obligations de droit international. C'est ça qui compte.
Merci beaucoup Damien Cottier, chef de groupe LR sous la coupole fédérale à Berne. Merci de votre participation à cette matinale spéciale Gaza. Et maintenant, ça continue. Après le journal de 8h jusqu'à 8h30, Elena Aoun, vous restez avec nous. On accueillera un dernier invité, deux derniers invités. Et vous pouvez encore nous interpeller par WhatsApp via des messages écrits au 079 1 34 34 70.
Infotrafic RTS.
La circulation est dense sur les principaux axes du réseau routier roman. Toutefois, aucune perturbation n'est à signaler.
Infotrafic RTS, en collaboration avec les CFF et le TCS.
Le temps sera assez ensoleillé ce matin en Valais, autour du Léman et dans les Préalpes, en partie ensoleillé sur le plateau, plus nuageux le long de l'arc jurassien. Les températures 12 degrés actuellement, 19 à 22 tout à l'heure.
La météo avec VZ, le conseiller financier pour votre retraite et vos placements, vzch.com.
Merci d'écouter RTS 1 et de regarder RTS 2, mercredi 28 mai, les 8h03.
Gaza, et maintenant matinale spéciale.
Comment envisager l'avenir ? Quel avenir à Gaza ? Quel rôle la Suisse joue-t-elle ? Peut-elle jouer ? Nous recevrons dans quelques minutes la responsable des affaires moyen-orientales au département fédéral des affaires étrangères avec nos autres invités. Émission spéciale jusqu'à 8h30. Nous avons fusionné la matinale et tout un monde pour parler de Gaza. Valérie Auert à mes côtés. Crise humanitaire, impasse politique, conséquences de cette tragédie sur les sociétés. Une émission avec vos questions par message WhatsApp au 079 1 34 34 70. Bonjour Léandre Béret.
Et bonjour.
Les titres du journal.
Et la situation à Gaza qui trouve un écho en Suisse où des personnalités et organisations publient ce matin une lettre ouverte au Conseil fédéral pour qu'il agisse pour une trêve. Une lettre morte, disent déjà certains. Mais avant d'y revenir, nous ferons le pont entre l'Ascension et les régions romandes. Long week-end et soleil, les composantes idéales pour les acteurs touristiques qui comptent bien capitaliser sur ces 4 prochains jours. Du soleil pour le meilleur certes, mais aussi pour le pire. Après 10 années les plus chaudes jamais enregistrées, les prévisions restent sombres. L'Organisation météorologique mondiale est sûre à 70% que la planète va se réchauffer de plus de 1,5 degré d'ici 4 ans. Où vous échapperez-vous pour ce long week-end de l'Ascension ? Les offices du tourisme misent en tout cas sur votre venue. Pour les différentes régions de Suisse, ces 4 jours représentent un enjeu intéressant. Et si les conditions sont réunies, ils peuvent rapporter gros. Déborah Solbank, certaines régions communiquent même spécialement pour ces jours-là.
Le Jura, par exemple, a lancé une opération séduction valable ce mois de mai avec la campagne « Le Jura, c'est cadeau ». Ainsi, à partir de 2 nuitées réservées dans le canton, les visiteurs se voient offrir une activité de mobilité douce. Sortie en kayak, vélo ou cheval, par exemple.
Ici, au cœur de l'Europe, les espèces les plus diverses se rencontrent.
Et Swiss Tourisme vient de lancer une campagne intitulée « Bees and Friends, les abeilles et leurs amis » ou « Comment faire la promo d'établissements qui hébergent dans leur jardin des hôtels pour insectes » lauréats d'un concours d'architecture. L'Ascension est l'occasion rêvée de découvrir la richesse hôtelière suisse, communique La Fêtière. Neuchâtel Tourisme dédie une page au week-end prolongé sur son site avec de nombreuses activités à choix. Objectif, donner un petit goût de reviens-y à l'expérience. Frédéric Zamofing, responsable du marketing et de la communication à Tourisme Neuchâtelois.
Pour nous, ça nous permet à une clientèle potentielle de leur faire découvrir notre région. Puis de se dire, mais finalement, j'arrive pas en un week-end à faire ce que j'avais envie de faire, surtout par exemple avec une carte d'hôte qui offre des gratuités. Et dans ces cas-là, de revenir pour une période plus longue.
Ces 4 jours sont loin d'être anodins, donc. La région du Pays d'en Haut observe d'ailleurs en général une augmentation de 20 à 30% de ses nuitées. À Genève, on mise sur les visiteurs qui se décident à la dernière minute en fonction de la météo. Un comportement que les Suisses adoptent de plus en plus selon les observateurs. Il va faire beau ce week-end. Genève vient donc d'activer sa promo visant le public alémanique et français.
Et l'année dernière, les destinations phares pendant l'ascension au niveau des villes ont été Zurich, Bâle et Berne. Côté nature, la Suisse centrale a été particulièrement prisée. Et un endroit à éviter ces temps, c'est le Lütschental, toujours menacé par la montagne. Le glacier du Birch glisse inexorablement. Il s'avance de plusieurs mètres par jour et provoque plusieurs nouveaux effondrements. Le plus grand a lieu à 18h hier soir. Images impressionnantes. L'avalanche de glace est déboulée, a atteint la vallée 400 mètres avant les première maison du village de Blatten. Les autorités rappellent qu'il s'agit là de l'évolution presque naturelle de la situation.
Le Conseil fédéral ne peut pas rester silencieux face à ce qui se passe à Gaza.
Une lettre ouverte signée par des organisations et des personnalités, dont 2 anciennes conseillères fédérales, demande à Berne d'agir pour sauver les valeurs humanitaires. Le texte publié ce matin appelle en outre un engagement diplomatique de la Suisse pour un cessez-le-feu à Gaza et une évaluation des risques de génocide dans l'enclave. Un appel superflu aux yeux du conseiller national PLR Philippe Nantermo, car la Suisse fait déjà entendre sa voix.
Je comprends les demandes, je me rallie d'ailleurs à certaines de ces demandes, mais je relève qu'une bonne partie d'entre elles sont déjà acquises, puisque le Conseil fédéral a pris déjà position la semaine passée pour l'accès humanitaire, pour la libération des otages. Enfin, l'essentiel des points sur lesquels la Suisse doit s'engager, eh bien la Suisse l'a fait. Je me demande en fait au bout d'un moment s'il n'y a pas aussi de la communication derrière ces appels incessants que l'on entend depuis quelques jours à l'intention du Conseil fédéral, en oubliant que c'est quand même pas le Conseil fédéral qui est en première ligne sur la question israélo-palestinienne.
PLR valaisan Philippe Nanthermo avec Phileas Sautier. Action directe par contre du gouvernement irlandais. Le ministre des Affaires étrangères va présenter un projet de loi pour interdire l'importation de marchandises en provenance des colonies israéliennes. Ces communautés établies illégalement, jugent les Nations Unies, dans les territoires palestiniens. Une telle interdiction serait une première pour un État membre de l'Union Européenne, mais surtout symbolique. Elle concerne des biens comme les fruits, les légumes ou le bois. Elle aurait un impact minime sur l'économie.
Le réchauffement climatique est un voyage sans retour.
Pour la première fois l'année passée, la planète a connu un réchauffement de plus de 1,5 degré par rapport au 19e siècle. Le dépassement définitif de cet objectif de l'accord de Paris devient de plus en plus inéluctable. C'est ce que souligne un nouveau rapport publié ce matin par l'Organisation météorologique mondiale. Ce document, Fouad Boukhari, met à jour les prévisions climatiques mondiales des 5 prochaines années.
Ce rapport de l'OMM n'offre aucun signe de répit. D'ici 2030, les températures mondiales devraient rester à des niveaux records, avec une probabilité très élevée, 70%, que la moyenne des 5 prochaines années soit au-dessus de l'objectif d'1,5 degré. Le niveau actuel de réchauffement entraîne déjà des vagues de chaleur plus néfastes, des précipitations extrêmes, des sécheresses intenses, la fonte des calottes glaciaires, de la glace de mer et des glaciers, le réchauffement de l'océan et l'élévation du niveau de la mer. Ces événements considérés jadis comme exceptionnels sont appelés à devenir la normes, une nouvelle réalité qui aura un impact de plus en plus négatif sur nos économies, notre vie quotidienne, nos écosystèmes et notre planète, rappelle l'OMM. Chaque fraction de degré supplémentaire de réchauffement compte et rapproche dangereusement l'humanité du seuil de 1,5 degré. La surveillance et la prévision continue du climat restent donc essentielles pour fournir aux décideurs des outils et des informations scientifiques pour prendre des décisions politiques et nous aider à nous adapter.
Les précisions de Fouad Boukhari. 10 ans que le basket Genevois attendaient cela. Les Lions de Genève sont devenus hier soir champions de Suisse pour la troisième fois de leur histoire. La dernière fois donc, en 2015. Ils ont battu Fribourg 80-74 à domicile et remportent la finale 3-1 et s'offrent même le doublé Coupe Championnat.
Et à Roland-Garros, c'est du tennis, donc il ne reste plus que deux représentants de la Suisse.
Ouais, Victoria Golubic et Jill Teichmann qui vont donc tenter de poursuivre l'aventure à Bercy, mais la tâche s'avère particulièrement compliquée pour la seconde. La biennoise doit éliminer la numéro 1 mondiale, la biélorusse Arina Sabalenka, pour se qualifier pour le troisième tour du tournoi de tennis parisien. Bernardin Lehmann, autant dire qu'elle ne part pas favorite.
Difficile en effet d'imaginer Jill Teichmann trouver la solution face à une joueuse ultra puissante, trois fois victorieuse en Grand Chelem et qui rêve de briller enfin sur terre battue. La patronne du circuit n'a d'ailleurs laissé qu'un seul malheureux jeu à la russe Rakimova au tour précédent. Jill Teichmann est à la recherche de son niveau d'il y a quelques années et se retrouver ce soir sur le court Suzanne Lenglen, le deuxième en importance, la réjouit plus que l'inquiète.
C'est pour ça que je m'entraîne de jouer dans le grand stade avec, contre de bonnes joueuses et moi-même de trouver mon niveau de jouer à tennis. C'est un challenge, mais bien sûr. Beaucoup respect encore la numéro 1 mondiale, mais quand même, moi j'ai aussi mes choses et je vais tout donner.
Jill Teichmann tentera de faire mieux que lors de sa seule confrontation avec Sabalenka, une nette défaite il y a 3 ans au Qatar.
Je suis pas vraiment bien de me rappeler de mes résultats ou mes matchs contre des joueuses, mais oui, mais c'était sur hardcore, donc rien à voir, quoi. C'est rien à voir. J'espère rien à voir.
C'était en effet sur hardcore, sur terrain dur. Sur terre, ce sera forcément différent. Jill Teichmann a retrouvé le sourire à Paris, c'est déjà une chose. Gagner ce soir, c'en est une autre. Et Bernard Dalleman, RTS Sport, Paris.
Et auparavant, à 11h, si la météo le permet, la Zurichoise Victoria Golubic défiera l'américaine Amanda Anisimova, tête de série numéro 16, à voir sur RTS 2, à suivre bien sûr dans nos rendez-vous d'information.
Bien sûr, et c'était le journal de Léandre Béret. Il est 8h12.
La matinale, Valérie Awert, Éric Guevara-Frey.
Matinale spéciale qui continue jusqu'à 8h30. On a fusionné la matinale et tout un monde. Et dans cette dernière partie, on va tenter de regarder vers l'avenir, l'avenir de Gaza. Alors, pour Donald Trump, il l'avait dit en février, il en parle plus vraiment depuis, mais ça ressemblait à une sorte de côte d'azur du Proche-Orient, une riviera, aussi à l'expulsion vers l'Égypte, vers la Jordanie, des 2 millions de personnes qui vivent à Gaza. Naed, cette habitante de Gaza qui nous accompagne depuis tout à l'heure, que vous entendez dans notre podcast Naed, une voix de Gaza qui est en ligne sur Play RTS. Elle explique dans ce nouvel extrait comment elle se positionne là-dessus.
Je veux vivre, je souhaite vivre avec ma famille, avec dignité et en paix, sans la crainte de vivre encore une autre guerre. Bien sûr, le premier choix, si les responsables peuvent me donner le minimum de droits, c'est avoir un appartement. Je tiens à mon pays et à ma terre, bien sûr. Mais si tout est flou, pas de maison, pas de vie, je soutiens le projet de Trump, ok, mais en sachant quelles sont les conditions de cette immigration.
Voilà, Elena Aoun, vous êtes encore avec nous, spécialiste du Proche-Orient, professeur à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Je vous voyais hausser les sourcils là, ce qu'on vient d'entendre, Naed dans son podcast qui dit que à certaines conditions, elle serait prête au plan Trump, ça veut dire qu'elle serait prête à partir, c'est ça que ça veut dire. Elle n'est pas représentative de la majorité du peuple palestinien si attaché à leur terre ou bien si?
Écoutez, quand on vous décime, est-ce que vous avez vraiment le choix? Et la question qui se pose est celle de savoir ce que Israël, les États-Unis et leurs alliés ont en réserve pour les Gazaouis. Si ils vont continuer à mourir de faim, à mourir de soif, à ne pas pouvoir mener un vague semblant de vie digne, sans parler des bombardements, du siège, et qui ne subissent pas depuis le 7 octobre, mais depuis bien avant, alors oui, ils seraient tentés par l'exil. Mais il faut que nous puissions également qualifier de tels événements, à savoir un nettoyage ethnique cautionné par la communauté internationale, à commencer par les puissances occidentales, les États-Unis et leurs différents alliés.
Deux nouveaux invités nous ont rejoints pour les quelques minutes qui nous restent. Denis Charbit, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université libre d'Israël, auteur entre autres de Israël, l'impossible état normal, qui est paru chez Kalman Levy. Et puis Monika Schmutz-Kirgus, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, ambassadrice, chef des affaires Moyen-Orientale, Afrique du Nord, au département fédéral des affaires étrangères à Berne. Je vais commencer avec vous, Monika Schmutz-Kirgus, parce qu'on a reçu énormément, et on continue à recevoir par WhatsApp, des messages d'auditeurs qui disent « mais la Suisse ne fait rien, elle parle ». Alors tout à l'heure, Damien Cottier défendait cette position en disant « non, on fait pas rien, déjà parler c'est déjà quelque chose ». Puis on a approuvé une augmentation de l'aide. Vous, qu'est-ce que vous répondez à ces gens qui disent « la Suisse ne fait rien, elle ne fait rien de concret sur le terrain, elle ne fait que parler ». Je vous pose la question, est-ce que la diplomatie suisse aujourd'hui, dans le cas de Gaza, elle est efficace ?
C'est une très bonne question et je vous remercie beaucoup. On ne devrait jamais répondre à une question avec une contre-question, mais est-ce que quelqu'un est encore efficace aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une diplomatie qui est encore efficace ? Je veux dire, il y a quand même une certaine impuissance de la communauté internationale. Ça a été dit, ça a été souligné par d'autres participants à cette émission, que d'ailleurs je salue et je vous remercie beaucoup. Je crois que c'est très important de parler de tout ce qu'on parle. Mais alors que la Suisse ne fait rien, j'aimerais vraiment vivement contredire. On était au Conseil de sécurité, on a fait beaucoup. Je pense que ça s'oublie peut-être. Le premier cessez-le-feu, c'était quand même, on était instrumental. Maintenant, il y a depuis le 2 mars ce blocus humanitaire. On était probablement parmi les premiers pays qui ont cité l'ambassadrice d'Israël pour dire, après même pas un mois, que c'était inacceptable et pour rappeler que le droit international humanitaire doit être respecté. Donc on fait des choses. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine indignation de la population, de plus en plus de pays, face à cette famine. Et je crois que c'est important. Et puis on prend la critique. C'est important que les gens nous critiquent, mais je peux vous répéter, et ça a été dit, on fait beaucoup, on fait quelque chose même sur le terrain tout le temps, en continuation. On a une ambassade à Tel Aviv, on a des représentants à Ramallah. Je veux dire, on fait, on analyse, on essaye de bouger les choses, et surtout, la chose la plus importante maintenant, je crois, c'est que cette famine puisse être arrêtée.
Vous disiez tout à l'heure, Monika Schmutz-Kirgus, qu'il y a une certaine impuissance. Qui est en mesure aujourd'hui de faire quelque chose ? Est-ce que quelqu'un, un pays, on pense aux États-Unis bien sûr, est-ce que c'est vraiment eux qui ont le levier principal pour faire quelque chose ?
Écoutez, vous l'avez dit vous, je dirais oui. Je pense que c'est eux qui peuvent faire quelque chose. Écoutez, j'étais moi-même à Washington, j'ai moi-même parlé avec le bureau de l'envoyé spécial Witkoff. On m'a dit, il y avait même un certain moment, et on en parlait de ce cessez-le-feu, on parlait justement des otages qui doivent immédiatement être libérés. On me disait que il y avait une proposition sur la table pour un cessez-le-feu, pas seulement 30 ou 60 jours, mais un cessez-le-feu pour toujours. Et on m'a fait comprendre que c'était quand même la partie israélienne qui n'était pas intéressée.
Denis Charbit, il n'y a que les États-Unis qui peuvent parler, qui sont écoutés par le gouvernement israélien.
Oh, je ne sais pas qu'ils sont écoutés par le gouvernement israélien. Il n'y a effectivement que Donald Trump et son équipe qui sont capables, quand ils le veulent, d'imposer à Israël. Et contre le vœu du gouvernement. À cet égard, c'est vrai que les choses sont entre les mains de Trump. Et si on doit aujourd'hui orienter les pressions, c'est vers lui. Sur Israël, effectivement, il faut le faire au moins de manière symbolique. Mais ce ne sera pas écouté. Hein. On a vu les réactions du gouvernement à la suite de l'annonce faite par le Canada, la Grande-Bretagne et la France d'envisager des sanctions, d'arrêter les contrats. Ça n'a pas conduit ni à une ouverture de négociation, ni à quoi que ce soit. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est même pas par les Nations Unies, une résolution supplémentaire entraînera nécessairement un veto américain. Non, non, c'est effectivement d'essayer de voir avec Donald Trump, dans la mesure où, effectivement, on peut avoir accès jusqu'à lui pour lui dire que c'est contraire à ses valeurs, contraire à la possibilité de faire des affaires. Il faut parler son langage. Mais c'est vrai qu'autrement, sans mépriser le moins du monde les choses, les décisions qui sont prises, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez terrifiant à voir cette impuissance, mais qui doit... ce qu'il faudrait peut-être, c'est de conjuguer ces pressions internationales sur la pression intérieure à l'intérieur de la société israélienne qui commence timidement, mais qui commence à s'émanciper, je dirais, de la torpeur dans laquelle elle était depuis le 7 octobre.
On entendait les divisions avec notre correspondante à Tel Aviv tout à l'heure qui disait effectivement c'est en train de se fracturer. Est-ce que une partie de la société israélienne est sensible à cette prise de conscience internationale, européenne, le changement de cap aussi de l'Allemagne il y a deux jours? Qu'est-ce que vous ressentez, vous, sur place, Denis Charbit? Est-ce que les consciences sont en train de se modifier?
Alors, il faut bien comprendre, aujourd'hui même, au moment où je vous parle, c'est le 600e jour où les otages sont encore retenus dans les toits d'Ajramas. Il faut bien comprendre que c'est ça qui fait d'abord et avant tout écran sur toute prise de conscience israélienne. Néanmoins, c'est vrai que les images qu'on peut voir, même si ce n'est pas la télévision israélienne qu'on les verra.
Mais est-ce qu'elles parviennent aux Israéliens, enfin, ces images? On a eu beaucoup de reportages qui nous disaient on ne voit pas cette réalité-là, on ne nous la montre pas et donc elle n'existe pas.
Non, la seule réalité qui existe, c'est qu'on voit la destruction de Gaza, puisqu'on voit les chars, les tanks, les soldats, etc. Et là, bien entendu, on ne peut pas ne pas voir ça. Mais c'est vrai que les images de famine, etc., sont très peu montrées. Et quand elles sont analysées, c'est toujours pour parler de l'impact sur l'image d'Israël. Donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, on est encore loin, mais... ce qui joue essentiellement en Israël, ce ne sont pas effectivement ces images. C'est vrai que cette compassion, alors en temps de guerre, il est toujours très difficile d'attendre une compassion de l'autre côté. Je veux dire, personne ne dirait aujourd'hui à les Palestiniens, mais même le lendemain du 7 octobre, parce que vous avez de la compassion pour les Israéliens. C'est ça la culture de guerre, malheureusement. Il faut le déplorer, mais c'est ça. Mais en revanche, ce qui commence à gronder au sein d'une partie de la population israélienne, mais qui devient de plus en plus significatif, c'est d'une part le sentiment que les buts de guerre sont trop flous. L'éradication du Hamas, si vous n'y êtes pas arrivé au bout de 18 mois, c'est pas encore un mois ou deux mois de plus, etc., à moins d'une sorte de Deus ex machina, sorte de miracle qui fait tiens qu'un beau jour, le Hamas annoncerait sa reddition. Donc c'est cette ambiguïté-là. Il y a un deuxième aspect qui est très important, celui que vous avez cité, c'est-à-dire que on entend des alliés d'Israël de très longue date, la France, le Canada, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, c'est essentiel. Ouais. On a toujours pensé
c'est un virage majeur, ça.
Au nom du passé nazi, interdirait de dire quoi que ce soit, voilà que le chancelier, et qui n'est pas du SPD, qui est du CDU, annonce en disant, attention, notre critique sera jamais aussi sévère que nos partenaires, mais on commence à le faire. Et j'ajouterais dernier point, un leader est né. Voilà, la semaine dernière, Yair Golan, qui est le chef du parti travailliste et de la gauche unifiée, a déclaré, alors il a fait une déclaration tonitruante consistant à dire qu'un pays normal ne peut pas tuer des enfants comme un passe-temps, l'expression de passe-temps est très très mal passée, mais qu'on le veuille ou non, parfois il faut passer par des expressions problématiques pour susciter un débat. C'était, il faut le dire, la première fois que un chef politique israélien mettait dans l'espace public la question de la manière dont Israël mène cette guerre. Jusqu'à présent, l'obsession, le discours tournait uniquement, exclusivement autour des otages.
Monika Schmutz-Kirgus, vous qui êtes la voix de la Suisse officielle dans cette émission ce matin, reconnaître officiellement l'État de Palestine, la plupart des pays du monde, à vrai dire, une grande majorité l'ont fait, sauf les pays occidentaux, ça commence un petit peu en Europe, aux yeux de la Suisse, ça sert à rien?
Écoutez, je ne vais pas prendre position sur ça maintenant. On est en train de, comme j'ai dit, d'analyser et de travailler tous les jours. Il y aurait bientôt une conférence des Nations Unies qui va se dédier à cette question. Mais j'aimerais quand même encore une fois retirer, parce que je sens qu'il y a cette impression comme quoi la Suisse ne fait pas assez. Je crois la diplomatie.
Je vous confirme qu'on continue de recevoir des messages dans ce sens.
Oui, ça n'arrête pas.
Alors j'essaie quand même de dire, voilà, on fait pas de la diplomatie avec le mégaphone. On est l'État dépositaire des conventions de Genève. On rappelle partout, tout le temps, tous les jours, dans les instances internationales, bilatéralement. Donc je me veux de contredire cette impression. Ça a été mentionné par d'autres participants qu'on a déjà donné aussi 130 millions depuis le 7 octobre 2023.
Est-ce que par exemple la Suisse pourrait, vous dites on fait déjà énormément, mais par contre ce qu'elle ne fait pas ou très peu, c'est l'accueil de réfugiés gazaouis sur son territoire depuis le début du conflit, alors que certains voisins organisent des évacuations de dizaines de personnes. Est-ce que peut-être ça, elle pourrait faire davantage?
Mais encore une fois, vous parlez de l'Allemagne, et j'imagine quand vous parlez de certains voisins, il y a effectivement 8 personnes qui sont atterries en Allemagne après quand même 18 mois de guerre. Il y a tout autant de enfants palestiniens blessés qui ont été soignés en Suisse. Là encore une fois, je pense, il y a toujours cette critique Donc, comme quoi on ne fait pas assez. On fait vraiment des choses, mais je me rends compte que ce conflit ne laisse d'ailleurs indifférent personne. Et je peux aussi vous dire, quoi qu'on soit, whatever we do, il y a un des deux côtés qui va nous critiquer.
Peu importe ce qu'on fait, on sera critiqué voilà. De toute façon.
Alors, une question de Jean-Claude, l'un des auditeurs de cette émission, pour vous, Madame Schmutz-Kirgus, qui dit « La Suisse ne peut pas prendre des sanctions contre Israël sans l'ONU et l'Union européenne, mais elle a pris des sanctions contre les Palestiniens en diminuant l'aide à l'UNRWA. Est-ce que c'est partial ?»
Écoutez, c'est une décision quand même du Parlement, à un certain moment, que d'ailleurs n'a pas passé. Donc maintenant, comme je vous ai répété mercredi passé, il y a quand même le Conseil fédéral qui a encore une fois alloué 20 millions, donc 10 millions pour l'UNRWA. Je veux dire, c'est quand même, on est une démocratie directe, il y a tout un paysage politique, et puis certaines décisions sont prises ou bien au niveau du Conseil fédéral ou bien au niveau du Parlement.
J'aimerais poser encore une question à Denis Charbit. On a reçu beaucoup de messages. On a reçu aussi un message vocal de Irène sur l'usage de l'antisémitisme par Israël dans ce conflit. On écoute.
Dans quelle mesure Israël a-t-elle utilisé, respectivement abusé, de la notion d'antisémitisme pour bâillonner toute critique face à sa politique à Gaza et Cisjordanie? Et avec quel succès, d'après vous, auprès des politiques et médias?
Denis Charbit, est-ce que l'antisémitisme est utilisé à mauvais escient depuis 20 mois ?
Le phénomène est complexe. C'est pas parce qu'il y aurait et il y a abus de la notion d'antisémitisme depuis déjà des années par le gouvernement israélien que cela signifie que le phénomène antisémite n'est pas en hausse. Et quand je dis phénomène antisémite, ça veut dire très clairement s'en prendre à des juifs dans les lieux où vous vivez, que ce soit en Suisse, en Belgique ou en France. Ça, c'est indéniable. Qu'il y ait abus, qu'il y ait, exploitation, instrumentalisation, c'est clair, le gouvernement ne sait pas réagir autrement à quoi que ce soit qu'en agitant l'épouvantail antisémite. Mais attention, de la même manière qu'on condamne cette instrumentalisation, ne nous aveuglons pas sur le fait que la manière dont Israël conduit la guerre dans des conditions désastreuses fait que certains sont sans doute confondent une critique impitoyable, dure, acerbe de la politique menée par Israël, de la guerre menée par Israël, avec, je dirais, la renaissance, la résurgence de fantasmes antisémites qui sont dans les cultures européennes et même dans les cultures arabes et qui trouvent prétexte pour se donner une bonne conscience. Parce que c'est vrai que là où on dirait mais l'antisémitisme accusait les juifs de choses qu'ils ne font pas, là, effectivement, il y a bien des milliers d'enfants qui meurent. Et il faut faire très attention. Je ne dispenserai personne. Quiconque fait une critique dure et impitoyable d'Israël ne peut pas se dispenser d'un examen de conscience personnel dans quelle mesure le langage qu'il emploie ne pourrait pas être employé, utilisé par des forces antisémites qui couvrent et qui sont là, à l'extrême gauche comme à l'extrême droite.
Brièvement, une réaction de votre part, Monika Schmutz-Kirgus.
Oui, merci infiniment, parce qu'on a beaucoup parlé de la déclaration qui a été envoyée au Conseil fédéral aujourd'hui. Et par rapport à ce que dit monsieur le professeur, je pense que c'est quand même très important qu'il y ait beaucoup de personnalités juives suisses qui sont là-dedans, parce que justement là, on va pas pouvoir dire que c'est une déclaration antisémite, parce qu'il y a quand même pas mal, vous l'avez dit avant, il y a un rabbi, il y a plusieurs personnalités justement de la communauté juive suisse qui ont signé cette déclaration.
Le mot de la fin avec vous, Elena Aoun. Eric, vous voulez...
Oui, juste avant le mot de la fin, je vais vous demander peut-être juste une réponse par oui ou non, Denis Charbit, mais la question est importante. L'ancien Premier ministre israélien Ehud Barak qui écrivait il y a quelques jours que le Benjamin Netanyahou prolonge la guerre pour des raisons purement personnelles, pour ne pas faire éclater sa coalition, sachant que la justice l'attend pour des questions des procès de corruption en suspension actuellement. Ça, pour vous, c'est une explication valable de ce qui se passe là et de ce que beaucoup d'observateurs qualifient même d'impasse stratégique pour Israël?
Alors, je dirais pas oui et non, parce que le professeur que je suis ne peut pas se contenter d'une réponse politique, mais dans le débat public, bien sûr que c'est une explication tout à fait légitime.
Merci beaucoup.
Donc le mot de la fin, oui, Denis Charbit nous parlait de ces milliers d'enfants qui meurent à Gaza. Effectivement, il y en a des milliers qui meurent. On va peut-être...
On a une question de Julie qui demande ça. Quel avenir pour les enfants de Gaza ?
Elena Aoun.
Écoutez, encore une fois, cela dépend de la communauté internationale et contrairement à ce qui est, à ce qui a été dit et à ce qui est largement partagé comme croyance, je pense que les États-Unis ne doivent pas être les seuls à compter et que l'ensemble des diplomaties, notamment européennes, suisses, etc., doivent aussi assumer leur rôle et ne pas être dans une normalisation totale avec Israël comme ils l'ont été, cautionnant ainsi l'occupation, la colonisation, la répression et ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Donc l'avenir des enfants de Gaza dépend des choix qui vont être posés. La réalité, hein, la destruction à la fois physique de Gaza, la destruction des corps, mais aussi la destruction de la société sont là à voir et il faudra voir est-ce qu'on va enrayer la machine de guerre israélienne et se mettre non seulement à rebâtir l'espace, mais également à rebâtir, à guérir les corps, à guérir le mental, parce que le mental a énormément souffert et les enfants sont parmi les plus fragiles, d'autant plus que la malnutrition fragilise tant et plus. Et puis aussi, il faut reconstruire le social. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des dizaines et des centaines d'enfants qui ont survécu à leur famille et qui sont seuls au monde. Comment va-t-on gérer chacun d'entre nous, je dirais, à une responsabilité?
Merci beaucoup Elena Aoun, professeure de relations internationales à l'Université catholique de Louvain, d'être venue dans notre studio ici à la RTS. Merci aussi à vous Denis Charbid, professeur de sciences politiques à l'Université libre de Jérusalem, et à vous Monika Schmutz-Kirgus, qui est responsable des affaires Moyen-Orient, Afrique du Nord au département fédéral des affaires étrangères. Un mot sur le podcast, Valérie?
Ben oui, un mot, Naed, une voix de Gaza, podcast, un nom, Naed, une voix de Gaza sur Play RTS, il vient de sortir. Vous pouvez aller l'écouter, je vous le conseille, c'est très fort.
Et c'est la fin de cette émission spéciale. Yana Médro à la production avec Magali Philippe, Adèle Tiguer, qui est d'ailleurs la voix qui raconte dans le podcast de Naed, Karine Scherfa aussi, nos attachés de production. Merci à Bernard Combe et ses équipes à la technique, Caroline Dumoulin, Frédéric Tsand, Igor Imov, Sophie Daoud pour les images, Laurent Caspari, Xavier Alonso à la rédaction en chef. Et Valérie Auert.
Et merci à vous aussi Eric et Anouk Henry, chef de notre rubrique internationale. Merci.
À suivre, on en parle, ce sera juste après les infos d'Audrey Mondy.
La matinale en tout temps sur l'application Play RTS.
Il est 8h31, Aude.
Mais face à l'enfer absolu à Gaza, la Suisse doit s'engager davantage pour un cessez-le-feu. L'appel lancé ce matin par 80 organisations et personnalités. Parmi elles, les anciennes conseillères fédérales socialistes Micheline Calmiret et Ruth Dreyfus ou encore un rabbin zurichois. Les signataires demandent au gouvernement suisse de prendre des mesures. Effondrement majeur hier au-dessus de Blatten dans le Haut-Valais, le plus important depuis l'évacuation du village. Une partie du glacier de Birch s'est détachée vers 18h. L'amas de glace, roche et eau a terminé sa course dans la vallée à 400 mètres des premières maisons de Blatten. Quatre policiers sont poursuivis en justice après la mort d'un dealer présumé à Lausanne. Selon nos informations, ils sont prévenus d'homicide par négligence après la mort d'un individu noir dans les locaux de la police dimanche. L'enquête devra déterminer si les agents ont commis ou non des actes répréhensibles lors de cette interpellation. La Russie annonce avoir abattu près de 300 drones ukrainiens cette nuit dans son ciel. Une quarantaine de ces appareils se dirigeaient vers la capitale, Moscou, et ont perturbé le fonctionnement des aéroports pendant plusieurs heures. Il s'agit d'une des plus importantes attaque visant le territoire russe depuis le début de la guerre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rend aujourd'hui en Allemagne pour rencontrer à Berlin le chancelier Friedrich Merz, l'un de ses plus grands soutiens. Les deux hommes doivent justement discuter de l'aide allemande à l'Ukraine et des négociations pour un cessez-le-feu avec la Russie actuellement dans l'impasse. Pour finir, les Lions de Genève sont champions de Suisse de basketball. Hier soir, les Genevois ont validé leur titre en battant Fribourg Olympique 80 à 74. Ils remportent la finale 3 victoires à 1.
On en parle. L'émission conso et services de RTS Première.
Bonjour et bonjour à mes camarades du jour, Samuel Soquet et Muriel Mera.
Bonjour.
Les hôpitaux universitaires de Genève ont lancé ce printemps un programme pour accompagner les personnes accros au sirop contre la toux quand ces sirops sont détournés de leur usage médical, Samuel.
Oui, ces sirops contiennent de la codéine, une substance dérivée de l'opium, hautement addictive, et dans le canton de Genève, elle fait des ravages chez les 10-25 ans.
Et on en parle dans un instant. Et puis on se penche sur nos balcons depuis lundi avec Xavier Bloch, une série consacrée à ce petit carré d'air frais dans nos appartements. Après les aspects juridiques et la sécurité, on verra comment rendre cet aspect accueillant pour nos animaux de compagnie. Et puis, dès 9h, notre guichet n'aura jamais aussi mal porté son nom, puisque nous serons loin des guichets, justement. On part en rando, Muriel.
Oui, et peut-être même qu'on chantonnera sous l'effort. Hein. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. Un kilomètre à pied.
Je sais pas si j'ai le souffle pour chanter quand randonner.
2 kilomètres. Non, mais bon, j'arrête là. Mais à propos de souliers, quel type de chaussures, justement, privilégier? Rigides, qui tiennent bien la cheville, ou pas forcément? Et puis comment bien préparer sa rando, repérer les itinéraires adaptés à sa condition, les indispensables à glisser dans son sac. Posez toutes vos questions à nos invités. Le standard est déjà ouvert, 0800 108 208.
Et ce matin, c'est Mathilde Pelletier, Elisa Weber et Marie Prat qui vous accueillent au standard. Mathias Brunimann est en régie, on randonne ensemble jusqu'à 10h. Bienvenue.
Philippe Gérard.
Des sirops codéinés détournés de leur usage médical pour être mélangés à du soda et en faire une drogue psychoactive. Le phénomène inquiète les autorités sanitaires, Samuel Soquet.
Oui, ce détournement n'est pas nouveau, mais depuis quelques mois, il prend une telle ampleur dans le canton de Genève que les HUG ont lancé un programme spécifique pour accompagner les personnes devenues accros. En plus des symptômes physiques qui peuvent aller jusqu'à la mort par overdose, ces substances déconnectent peu à peu de l'entourage et la personne risque la déscolarisation, le repli social et professionnel, les comportements addictifs, voire même parfois l'entrée dans la criminalité pour se procurer ces sirops contre la toux qui depuis 2021 sont uniquement vendus sur ordonnance.
Et c'est un phénomène qui touche surtout des jeunes. Hein.
Oui, les 10-25 ans, souvent dans des soirées où ces sirops codéinés sont mélangés à des sodas, c'est la pratique du purple drink. Le jeu a l'air d'autant plus anodin qu'il n'implique pas d'alcool, juste un sirop pour la toux. Mais prises à haute dose, ces substances dérivées de l'opium sont tellement addictives qu'en quelques jours, ces enfants, ces ados et ces jeunes adultes deviennent physiquement accros, au-delà même des effets psychoactifs. Hein. Les professionnels de la santé observe aussi que certains jeunes se tournent vers ces substances car ce sont des tranquillisants et qu'elles aident à dormir.
Et pour en parler, nous recevons dans notre studio le docteur Raghu Yuga. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes
médecin. Merci pour l'invitation.
Merci en tout cas d'être venu en personne de Genève. Vous êtes en effet médecin chef de clinique au HUG, au sein de l'unité des traitements par substitution dans le service d'addictologie. Alors depuis le lancement de ce programme, c'était le mois dernier, vous accompagnez des jeunes qui sont enfermés dans cette dépendance aux opiacés. On a quand même du mal à comprendre comment des enfants peuvent se procurer des sirops qui sont quand même en principe vendus par ordonnance.
Alors, on peut trouver dans la rue, dans le marché illégal. On peut aussi parfois viser le médecin traitant pour des symptômes de toux. Le macatosan, il est prescrit à la base contre la toux. Donc, on peut aller chez le médecin traitant et puis simuler parfois des symptômes de toux.
Ou trafiquer des fausses ordonnances, ça se fait aussi, ça?
Oui, tout à fait. Il y a aussi une partie des gens qui vont faire des fausses ordonnances et puis se procurer à plusieurs pharmacies.
Alors j'ai lu que même sur le site de certaines pharmacies, il est indiqué qu'après un entretien conseil mené en toute discrétion à la pharmacie, nous pourrons vendre cet article, donc le sirop en question, même sans ordonnance, si son utilisation est adéquate et sûre. Donc il y a aussi les pharmaciens qui sont en première ligne.
Oui, en effet. Après, je pense que les pharmaciens font attention à ce qu'ils font par le biais de cet entretien. Après, en effet, il y a un risque de détournement également.
Le marché noir est très florissant puisqu'un flacon qui vaut une quinzaine de francs en pharmacie s'échange 150 à 200 francs dans la rue ou sur le net. Mais comment est-ce qu'on se rend compte qu'un proche est touché par cette addiction? Est-ce qu'il y a des symptômes physiques ou psychiques qui doivent alerter l'entourage?
Alors, en effet, l'usager peut avoir parfois des symptômes de sédation lorsqu'il est sous l'emprise de la substance. Ou d'un autre côté, pendant qu'il est en sevrage, il peut avoir une agitation, des insomnies. Mais surtout, on peut voir une tendance à un repli social, une déscolarisation qui peut venir en espace de quelques semaines, voire quelques mois.
On sait que vouloir aider quelqu'un à sortir d'une drogue, ça revient souvent à le braquer. Alors comment accompagner un proche devenu accro à ces substances ?
Alors à mon avis, il est nécessaire d'avoir une discussion, une communication ouverte, sans jugement, et puis demander des soins aux professionnels.
Mais les professionnels, c'est qui ? Comment on y accède ? C'est son médecin traitant ? C'est vous ?
Alors, en effet, à mon avis, c'est mieux de passer par des spécialistes en addictologie. Nous, on est ouvert à la consultation Cap Grand Pré, à la Servette, à Genève. Donc, on peut demander des soins via le médecin traitant, via le réseau de soins genevois.
Donc, si on a des soupçons, par exemple, que son enfant ou son adolescent se shoot au sirop pour la toux, on peut vous contacter éventuellement pour avoir des conseils.
Oui, éventuellement. Après, en effet, c'est mieux de passer dans un premier temps par le médecin traitant qui a un meilleur lien avec l'enfant, avec l'usager, parce que finalement, l'alliance thérapeutique, la confiance thérapeutique est très importante et souvent, elle est mieux construite avec le médecin traitant.
Avec ce programme que vous avez lancé le mois dernier au HUG, vous obtenez quels résultats en matière de sevrage ? Est-ce que ça marche ?
Alors, pour l'instant, il est compliqué de discuter des résultats parce qu'il s'agit d'une prise en charge à long cours. Pour l'instant, on est plutôt dans la phase d'accueillir les patients, voir leurs demandes. Parfois, on met en place de la substitution classique, donc plutôt morphine. Ça, on a beaucoup l'habitude avec ça. Et potentiellement, avec le temps, on va mettre en place aussi pour les usagers les plus gravement atteints de cette addiction, éventuellement à mettre en place même le maca toussaint ou la prescription de codéine médicalisée dans un cadre thérapeutique très encadré, dans un aspect plutôt de réduction de risque.
Donc ça, c'est dans l'idée de lisser un petit peu les effets en les prescrivant de manière concrète.
En effet, on a de l'expérience déjà avec l'héroïne médicale, avec la prescription de méthadone, de morphine, et puis on voit que si on a un suivi régulier, une prescription d'un traitement opiacé à des posologies fixes, on arrive à régulariser tant au niveau pharmacologique qu'au niveau clinique et puis au niveau également social et professionnel et éducationnel.
Est-ce qu'on sait quel type de jeunes sont touchés par cette addiction au sirop codéiné ?
Alors, il s'agit plutôt d'une classe sociale plutôt moyen, voire aisée. C'est pas forcément la drogue de la précarité. Après, c'est, je dirais un peu tous les milieux sociaux. Donc, il s'agit des élèves, mais il s'agit aussi des gens très bien insérés au niveau professionnel.
Et comment on explique qu'on puisse tomber si vite dans l'addiction avec une substance comme ça qui paraît quand même assez anodine ?
Alors, les opiacés, même s'il s'agit de, voilà, la codéine n'est pas forcément un médicament très puissant en opioïdes. En fait, tous les opioïdes ont une dépendance physique et en espace de quelques jours, s'il y a des prises régulières, on peut développer déjà une dépendance physique. Au-delà de la, et puis par la suite, en fait, une dépendance aussi, une addiction psychologique.
Mais il y a une différence entre jeunes et adultes, parce que les adultes qui prennent du sirop pour la toux contre des vrais toux, hein, pas pour des raisons récréatives, ne tombent pas forcément en dépendance.
Alors, en effet, il y a beaucoup de gens qui prennent de maca toussaint ou de la codéine contre la toux et ils ne vont pas développer une dépendance parce qu'en effet, on a besoin aussi des facteurs de vulnérabilité, que ce soit biologique ou surtout psychologique ou social, pour développer cette dépendance.
Et puis, vous disiez aussi que les personnes qui cherchaient la performance sportive ou qui étaient plutôt déprimées, tristes, pouvaient trouver un remède entre guillemets dans ces substances-là.
Oui, tout à fait. Surtout la période de l'adolescence, elle est caractérisée par une période avec beaucoup de bouleversements au niveau hormonaux, au niveau psychique aussi. Et en effet, parfois, on peut avoir juste de la tristesse qui n'est pas forcément pathologique, mais aussi on peut avoir des périodes de symptômes pathologiques. Et en effet, on peut utiliser la codéine comme un psychotrope qui aide à diminuer ces symptômes.
Radu Yuga, merci beaucoup d'être venu nous éclairer sur ce phénomène, hein, ce problème de santé publique, cet usage des sirops pour la toux par des jeunes dans des cocktails, hein, et à des fins qui ne sont plus justement de lutter contre la toux et qui posent justement ces problèmes d'addiction. Je rappelle que vous êtes chef de clinique au service d'addictologie des HUG. Très bonne journée à vous.
Merci, merci pour l'invitation.
Et puis dans un instant, on aménage son balcon pour y accueillir son animal de compagnie. Mais pour l'heure, voici Zaz sur RTS Première.
On ne rentre pas dans les cases. On n'est pas fait pour vivre en cage. On n'est pas pareil, on est fou. On est plusieurs, on est flou. Si c'est pour convenir un peu, si c'est pour devenir peureux, nous mettre à marcher dans les clous, en cachette, à genoux. Allez, passons à côté, mon amour. Regarde à quoi il joue. Toi et moi, comme on n'a jamais. Entièrement nous, on laisse aller, laisse tomber mon amour. On n'est pas fait pour jouer au loup. On est des diamants délaissés, mon amour. Ça est sauf, car l'amour sauve de tout. Il y a des jours où j'ai des bleus. Il y a des jours où l'on voit rouge. Il y a des mains sur nos yeux. Quand on veut plaire à tout ce qui bouge, il y a de quoi s'enrager et t'en dire qu'on doit se taire. Il y a de quoi déroger, désobéir à la frontière. Et le soleil peut briller, mon amour, sur nos petits bijoux. Toi et moi comme on n'a jamais été. On se rattrape, on recommence. On n'est pas des caricatures. On ne fait pas de révérence. Allez, passons à côté, mon amour. Regarde à quoi il joue. Toi et moi comme on n'a jamais été, mon amour. Entièrement nous. On laisse aller.
Sain et sauf, c'est le nouveau single de Zaz, la chanteuse française qui sera en concert le 20 juillet au festival Da Jazz de Saint-Moritz et le 8 août à Bienne dans le cadre du Lake Live Festival.
La vie côté pratique, on en parle jusqu'à 10h.
8h47 sur RTS Première, le balcon. Le balcon nous occupe toute cette semaine. Droit d'usage, sécurité, c'était les thèmes abordés hier et avant-hier. Et dans ce troisième épisode, on va parler balcon animalier. Chiens, perruches, lapins, chats se plaisent sur les balcons, mais comment les aménager pour que nos animaux domestiques s'y sentent à l'aise? On en parle dans 3 minutes avec un vétérinaire comportementaliste, mais d'abord, on va découvrir un balcon à chats, le balcon de Nathalie qui habite Montreux. Un reportage signé Xavier Bloch.
Bien Général, bonjour.
Bonjour, monsieur. Comment
alors ça, c'est un... Je vais bien, merci, mais je suis en âge. Cinquième étage sans ascenseur. On va dire que c'est un balcon qui se mérite, le vôtre.
Absolument, j'ai pas besoin d'aller au fitness.
On ferme vite derrière moi pour pas que les chats s'en aillent. Où est le balcon?
Ah, là-bas, au fond du couloir.
Je vous suis, on traverse la cuisine. Et le balcon, qui est recouvert de filets, votre balcon, alors?
Oui, mais en fait, c'est une protection pour les chats, pour pas qu'ils tombent. Mais c'est une demi-protection parce qu'il manque le haut encore. Et donc, au moins, ils peuvent sortir. Je les surveille.
Alors, on ouvre la fenêtre.
Alors, c'est le toit qui...
Qui borde le balcon.
Exactement.
Ouais, le balcon qui est large, de quoi, on va dire un petit mètre de largeur.
Sur, grosso modo, 5.
Et c'est le royaume des chats, la belle saison.
Oui, mais alors par contre, je dois les surveiller parce que un est déjà tombé du 5e étage et puis il a eu beaucoup de chance.
Elisabeth, je me retourne sur votre balcon. Effectivement, c'est assez bruyant parce qu'il y a des travaux en face. Je ne vois pas encore les chats, mais je pense qu'ils se cachent. Mais il y a surtout beaucoup de... Ah, j'en ai décroché un. Beaucoup de filets, on dirait des filets de pêcheurs. C'est pour que les chats n'aillent pas n'importe où sur le balcon. C'est votre manière de protéger et de garder en vie vos chats sur le balcon?
Oui, ce vétérinaire m'a donné un bout de ces filets qu'il avait dans son stock. Alors, ce sont des filets spéciaux pour chats, apparemment, pour appartements.
Protection de fortune, hein, parce qu'il peut il peut sauter par-dessus, il n'est pas très haut ce filet.
Alors heureusement les mains ne sautent pas, parce qu'ils ont 9 ans et 11 ans. Et donc ils tombent, ils ne sautent pas. Alors on verra, mais je vais essayer de trouver un système pour rajouter au moins un bon 2 mètres de haut, je pense. Il faut en tout cas 3 mètres. Donc c'est mon travail de ce printemps de colmater tout ça.
Vos chats, ils n'ont pas l'air, en tout cas aujourd'hui, ils n'ont pas l'air intéressés par le balcon. Même si on laisse la porte ouverte, ils n'ont pas l'air tentés.
Si, si, ils sont tentés. Et là où il y a les filets, en général, ça va. Mais il faut quand même surveiller. Ils adorent aller sur les bacs à géranium pour voir de plus haut. Parce que tout ce qui bouge est attractif.
Voilà les chats de Nathalie qui adore jouer les sentinelles sur son balcon à Montreux. Alors comment adapter un balcon pour y accueillir des animaux? Voici les conseils d'Olivier Glardon, vétérinaire praticien à Yverdon, spécialiste en médecine non conventionnelle et comportementale. Il est au micro de Xavier Bloch. C'est un vétérinaire souvent confronté justement aux chats tombés d'un balcon.
Si on met un filet, ce qui est la bonne solution, pour autant que le propriétaire l'accepte, il faut faire un filet complet qui s'accroche tout en haut, parce que tout est possible avec les chats.
Et les mailles, c'est pas dangereux pour les griffes du chat, s'il se prend les griffes dans les mailles?
Non, il y a des filets spéciaux maintenant qu'on trouve facilement, et on trouve même des filets de couleurs différentes, c'est pour ça que les propriétaires des fois acceptent ou souhaitent une autre forme de filet.
C'est cher, hein?
C'est pas gratuit.
Alors, problème quand on est locataire ou propriétaire d'un appartement avec balcon, est-ce qu'il faut accorder l'accès permanent ou semi-permanent à son chat et comment s'y prendre?
Le problème, c'est de savoir si on veut accepter qu'il nous force sans arrêt à ouvrir la porte ou pas. Si c'est le cas, parce que c'est un jeu de comportement de certains chats, vaut mieux mettre une chatière vers le balcon. Sinon, on peut lui donner des heures de la journée où il est sur le balcon. Et alors, d'un autre côté, si on veut laisser la porte entrouverte, c'est très bien aussi, mais il ne faut pas faire les portes en V dans lesquelles il risque de se coincer. Donc, pas faire un imposte basculant, mais ouvrir la porte et la coincer avec à la fois une cale et un linge pour que si elle se ferme à moitié, le chat ne reste pas coincé dedans.
Du coup, le chat peut aller et venir entre l'appartement et le balcon.
Voilà, à volonté, parce que souvent il aime changer d'activité et aller manger régulièrement.
Et puis alors, depuis le balcon, si le chat n'habite pas trop haut, on peut installer une petite planchette. Ce sont vraiment des équilibristes, les chats, qui vont descendre sur quoi, 5, 7, 8 cm de large le long de la façade?
Oui, alors là, il y a plusieurs systèmes. Il y a ces petites planches, quand même 15 cm si c'est possible. Là aussi, le propriétaire doit l'accorder. Ce qu'on fait maintenant, c'est des escaliers en colimaçon. Il faut leur apprendre à les utiliser. On commence par en bas, puis on les laisse remonter en leur donnant des friandises. Mais les colimaçons sont très jolis à voir extérieurement et sont souvent mieux acceptés que ces planches qui sont un petit peu rébarbatives par moment.
Olivier Gardon, vous êtes vétérinaire praticien. Maintenant, si le chat il passe pas mal de temps à l'extérieur, est-ce que je peux installer sa litière, une gamelle, des joujoux sur le balcon? C'est possible, ça?
Oui, je pense que c'est même souhaité. C'est-à-dire, où se trouve le chat, c'est bien s'il a au moins de l'eau, si possible une litière, ça lui permet de se nettoyer, enfin son hygiène, et puis aussi un endroit où il peut se retirer si tout d'un coup il fait trop froid ou trop chaud, qu'on peut isoler avec des coussins ou du Sagex quand il commence à faire froid.
Balcon pour le chat, attention, danger, il peut faire très froid, il peut faire très chaud aussi.
C'est juste là qu'il faut voir le changement brusque de température. Et alors si on le laisse tout l'après-midi, il faut prévoir une place pour se réchauffer ou se refroidir.
Comment est-ce que je peux reconnaître ou voir un mal-être chez le chat qui passe du temps sur un balcon? Il va le manifester de quelle manière? L'envie peut-être de rentrer si j'ai condamné la porte?
Alors l'envie de rentrer, il la manifeste clairement. Il va gratter contre la porte, il va se lever contre la fenêtre, etc. En règle générale, je dirais que s'il a un désintérêt pour son environnement, c'est qu'il y a un certain mal-être, il n'est pas bien.
Temps maximum pour un chat sur un balcon, ça se mesure?
Plusieurs heures, il n'y a pas de problème. Pour autant qu'il ait des possibilités de se déplacer, et de manger, de boire et de faire ses besoins.
Sur nos balcons, qu'on soit locataire ou propriétaire, on peut y installer temporairement un chien, si on a un chien. Alors là, ça sera plutôt un petit chien.
Oui et non, ça dépend de la taille du balcon. Le chien présente des problèmes un tout petit peu différents, c'est-à-dire qu'il risque d'intervenir en aboyant, ce que fait pas le chat. Mais sinon, les principes sont les mêmes. Mais lui, il risque moins de sauter par-dessus la balustrade.
Je lui laisse, comme pour le chat, la possibilité de rentrer dans l'appartement ou je l'enferme, entre guillemets, à l'extérieur?
Je lui laisserai la possibilité de rentrer aussi. Ou alors il faut le laisser moins longtemps dehors si on part un moment. Il ne faut pas que ça soit une punition pour le chien. Ça peut vite le devenir.
Quels autres animaux de compagnie, les fameux NAC, nouveaux animaux de compagnie, est-ce que je peux installer, alors j'imagine à la belle saison, sur mon balcon, je sais pas, lapins, hamsters, autres petits rongeurs, les oiseaux?
Voilà, exactement, les oiseaux, mais là aussi il faut des mesures de protection, notamment quand le soleil tourne, pour que la cage d'un oiseau ne soit pas ensoleillée complètement. Et pour les lapins et les cochons d'Inde, leur laisser aussi des possibilités de jouer, des tunnels en carton, des choses comme ça. Ils sont sur le balcon et ils peuvent vivre leur vie comme un lapin normal.
Quel animal je ne pourrais jamais installer sur mon balcon?
J'aurais des doutes pour les serpents, par exemple. Et puis les aquariums.
Et la tortue?
La tortue, on peut très bien la mettre dehors. Alors oui, ça lui fera le grand bien. Par contre, de nouveau, l'insolation, là, il faut faire peut-être attention qu'il n'y ait pas tout d'un coup beaucoup de soleil d'un coup, puis que la carapace se mette à chauffer.
Olivier Glardon, vétérinaire, qu'on entend aussi quelquefois le dimanche matin dans Côté Jardin. Tous au balcon, c'est une série signée Xavier Bloch. Demain, dernier épisode, balcon partagé ou comment éviter le conflit quand mes voisins font chaque soir la nouba sur leur balcon. Et peut-être qu'ils font la nouba sur ceci, Always on the Run, Lenny Kravitz.
Rich or poor.
Lenny Kravitz en 1991, un titre qui n'a pas pris de ride, hein, visiblement. Pas comme lui, peut-être, voilà, et pas comme nous d'ailleurs. Juste après les infos, chaussez vos souliers de marche, prenez votre sac à dos, un casse-croûte et une bouteille d'eau parce qu'on part en rando, Muriel.
Exactement, alors vous pouvez poser toutes vos questions à nos invités, mais vous pouvez aussi leur raconter vos anecdotes de marche. Moi par exemple, quand je vais marcher, j'adore qu'on se taise pour pouvoir écouter les oiseaux, le vent dans les branches. Et vous, comment vous aimez aller randonner? 0800 108 208.
L'heure avec RTS Première.
Et voilà un petit panneau jaune qui nous indique qu'on est à 5 secondes des infos sur RTS Première. Il est 9h.